Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette retransmission exceptionnelle du culte de l'Assemblée du Désert en direct de Mialet, dans le Gard. Et on entend d'ailleurs de loin le pasteur qui donne les dernières instructions. Cette émission est proposée par la Fédération protestante de France et animée aujourd'hui par Benjamin Bories. Merci aux auditeurs de l'émission Esprit Public et à sa productrice Émilie Aubry qui nous laisse de la place sur l'antenne de France Culture aujourd'hui. Alors, en deux mots, le protestantisme, qu'est-ce que c'est ? Le point de départ, c'est la réforme protestante du XVIe siècle, avec cette idée centrale, le Dieu de Jésus-Christ sauve et restaure chaque être humain par la foi et non en échange de bonnes actions. Pour le dire autrement, Dieu vous aime et vous n'avez rien à faire pour recevoir son amour si ce n'est une rencontre. En France, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les protestants ont subi des vagues de persécution, souvent dans une grande violence. Beaucoup ont été convertis de force au catholicisme, d'autres ont fui, d'autres encore ont résisté. Ainsi sont nés les cultes clandestins durant cette grande traversée du désert des protestants français. C'est en leur mémoire que chaque premier dimanche de septembre, environ 15 000 protestants de toute l'Europe célèbre un culte en plein air. Une histoire qui nous rappelle que la liberté religieuse d'aujourd'hui est le fruit d'un combat qui nous a précédés et pour lequel nous rendons grâce ce matin. Je vous retrouve juste après la prédication pour un entretien avec Emmanuelle Sebolt, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Et c'est maintenant le pasteur Vincent Hubach de l'Église protestante unie de Robinson, dans les Hauts-de-Seine, qui nous conduit pour ce temps de prière et de célébration.
Au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, nous lisons les versets 6 et 7. « Recherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le, car il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. » Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. Ainsi, Ésaïe nous invite à vivre de la présence de Dieu et de sa parole. Et toutes et tous, quelles que soient vos appartenances et vos origines, vous êtes invités à vivre ce culte dans la joie, l'espérance et la reconnaissance, comme d'ailleurs nous avons commencé à le faire il y a quelques minutes avec le baptême. Que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit nous soient en aide. Et je vous invite à partager la loi par les deux grandes paroles qui portent en elles tout l'enseignement des prophètes et de la loi. Écoutez, mes frères, comment Dieu veut être servi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En 1561, au colloque de Poissy, Catherine de Médicis avait réuni les théologiens catholiques, protestants et des grands du royaume pour mettre de l'ordre un petit peu dans le royaume de France qui en avait bien besoin. Et à cette occasion, Théodore de Bèze, dont nous dirons un mot cet après-midi, évidemment, vous le savez, a récité cette confession des péchés que je vous invite à entendre maintenant. Mes frères, en présence du Dieu Saint, que chacun de nous confesse humblement ses péchés en suivant du cœur ses paroles. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans la corruption, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous, par ton juste jugement, la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé. Nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance, recourant humblement à ta grâce et te suppliant de subvenir à notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père de miséricorde, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant nos souillures, Accorde-nous aussi et nous augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que reconnaissant de plus en plus nos fautes et en étant vivement touchés, nous y renoncions de tout notre cœur et nous portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à chanter le psaume 42, les strophes 1 et 2, comme un cerf altéré brame pour chassant le frais des eaux, ô Seigneur, ainsi mon âme soupire après tes ruisseaux. Manifester un bel enthousiasme. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que tous ceux qui se repentent dans la foi reçoivent de la part du Seigneur l'assurance de leur pardon. Mon enfant, dit le Seigneur, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Amen. Et nous continuons ce psaume 42, là. Les strophes 3 et 4. Mais pourquoi pleurer mon âme et frémir d'un tel effroi ?
Thank you.
Formidable. Merci, Père. Merci pour l'annonce du pardon qui nous touche et qui touche tout homme ici-bas. Merci pour l'annonce du pardon qui nous atteint pour nous libérer du poids de la culpabilité, mais qui nous laisse toujours face à nos responsabilités pour que nous puissions agir. Et surtout, Père, merci pour le témoignage de l'Écriture qui nous aide à vivre de la grâce. Alors, au moment de partager, l'Écriture ouvre nos cœurs à ce témoignage. Amen. Et je vous invite à entendre trois textes. Le premier dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, les versets 11 et suivants. Oui, ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi. Il n'est pas hors d'atteinte. Il n'est pas au ciel. On dirait alors, qui va pour nous monter au ciel, nous le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique? Il n'est pas non plus au-delà des mers. On dirait alors, qui va pour nous passer outre-mer pour le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique? Oui, la parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Et dans la Nouvelle Alliance, deux textes qui n'en font qu'un en fait, mais que vous connaissez bien, j'espère. Dans le livre de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 3 et suivants, puis 18 et suivants. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des graines sont tombées au bord du chemin et les oiseaux du ciel sont venus. Ils ont tout mangé. D'autres sont tombés dans des endroits pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé parce qu'il n'y avait pas de terre en profondeur et le soleil étant monté, ils ont été brûlés faute de racines. Ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines. Les épines ont monté et les ont étouffées. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Entendent qu'il y a des oreilles. Et quelques lignes plus loin, vous avez l'interprétation du semeur dans cet évangile de Matthieu. Vous donc écoutez la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. Celui qui a été ensemencé en des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas en lui de racines, il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe. Celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et il reste sans fruit. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre est celui qui entend la parole et comprend. Alors il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à prendre le psaume 138, les strophes 1 à 3, que tout mon cœur soit dans mon chant, qu'il soit brûlant de tes louanges, je te rends grâce en ta maison, je loue ton nom devant les anges.
Je te rends grâce.
Il est évident que vous connaissez la parabole du semeur. Du moins, je l'espère. Si ce n'est pas le cas, il faudra retourner à l'école biblique ou au catéchisme, parce que cette parabole, non seulement est connue dans tous les milieux chrétiens, mais elle a fait le tour du monde, évidemment. Mais le problème, c'est que, à bien connaître un texte, nous passons parfois, bien souvent, à côté de l'essentiel de ce texte. Pourquoi je voulais revenir un petit peu là-dessus? Parce que la parabole du semeur porte en elle, au total, toute la promesse du royaume, l'amour de Dieu, et c'est véritablement la bonne nouvelle qui nous est ainsi communiquée par ce petit texte qui est assez curieux. Il est curieux parce qu'il est un mélange d'évidence, d'exagération et même d'erreur. Ce qui fait beaucoup pour un texte biblique, vous me direz. Pourtant, le semeur, il est là, il est intéressant et même fondamental. Mais ça commence par une évidence, parce que le semeur sorte pour semer, c'était pas la peine de préciser. Pourtant, il y a dans cette évidence deux petites remarques que je voudrais partager avec vous. Le semeur est sorti comme Dieu sort de lui-même. Il y a là la vision d'un Dieu qui n'est pas du tout statique, mais qui est un Dieu vivant finalement, comme un peu celui de la première alliance, où Dieu va vers le peuple hébreu régulièrement. Les prophètes le disent assez, finalement, les psaumes aussi. Donc on a cette continuité de l'idée qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui sort de lui-même pour la création, pour son peuple, etc. Il est différent d'une idole qui est passive, vers laquelle il faut aller, qui nécessite sans cesse et sans cesse des efforts pour la rencontrer. Dieu sort, il le fait vraiment une fois pour toutes, en Jésus-Christ, il le fait une fois pour toutes, cette sortie, c'est ce qu'exprime le texte grec qu'il y a dans le texte que nous avons lu. Donc il y a quelque chose de décisif qui s'est passé en Jésus-Christ à un moment donné et qui vient nous toucher évidemment. Donc ça c'est la première petite remarque. La deuxième petite remarque, il sort dans un but bien précis. Il sort pour semer, on est bien d'accord. Mais la parabole est très courte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a très peu de mots au final. Et s'il est bien spécifié qu'il sort pour semer, c'est qu'il y a là une intention véritablement qu'on a voulu souligner de manière assez forte. Dieu sort pour semer, c'est-à-dire pour donner l'essentiel qui va fructifier et qui va faire vivre finalement. C'est le projet du semeur, c'est le projet de Dieu. Alors semer. Alors le semeur sème, bon, pas de problème, mais il sème d'une manière déraisonnable. Il en met partout. Mais vraiment partout. Jamais un semeur qui sème, même à la volée, n'en met comme cela partout. D'autant plus que dans l'Antiquité, on faisait très attention à cela parce que les rendements étaient beaucoup plus faibles que ceux d'aujourd'hui. En plus, quelquefois, on semait avec un bâton fouisseur, carrément. Donc on risquait pas d'en mettre à côté. Donc c'est intéressant de voir que le semeur de la parabole en met vraiment partout. Je veux dire... Alors, on peut toujours alléguer que les champs dans l'Antiquité étaient pas très précis, les limites étaient floues, etc. Il n'empêche. Ce qui m'intéresse ici, c'est de constater que le semeur ne regarde pas au terrain, finalement, mais il est tout à son geste. Un geste d'une générosité incroyable, qui est une sorte de folie pour les hommes de l'époque, dans tous les cas, et même encore pour aujourd'hui, mais qui caractérise la sagesse de Dieu. C'est un peu déjà ce que l'apôtre Paul soulignera dans l'épître aux Corinthiens, par exemple, au chapitre 1 et 2, où il met en parallèle la folie de Dieu, la sagesse des hommes, et il renvoie ainsi de l'un à l'autre. Mais ici s'exprime cette générosité, la générosité qui caractérise Dieu révélée en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a donné la parole au monde, sans jamais regarder ni compter, mais gratuitement, et à tous, et ceci jusqu'au don lui-même, jusqu'à la mort, avec ce pardon incroyable sur la croix, « Père, pardonne-leur », et la résurrection, évidemment. Mais il y a ce don total, indépassable, en Jésus-Christ. Alors, autour de ce ministère de Jésus, les Hébreux, les Grecs, les Romains, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, des pauvres, des méprisés, des exclus, des infirmes, ont entendu la parole du semeur. Et cela est venu jusqu'à nous, cette parole. Elle est venue jusqu'à nous, elle a été donnée aussi pour nous. Nous pourrions compléter cette liste que je viens de faire, par nos personnes. La parole a été donnée jusqu'à nous et nous atteint. Elle nous atteint par le témoignage de l'Écriture et par la puissance du Saint-Esprit. Alors, il y a bien une explication qui est donnée. Une explication qui voit dans chaque terrain des types différents d'humanité. Alors, évidemment, il y a les enthousiasmes d'une heure, évidemment, comme on les connaît. Il y en a beaucoup. Il y a ceux qui, que la parole indiffère. Ils sont très, très nombreux aujourd'hui autour de nous. Puis il y a ceux qui sont des gens très sérieux, parfois, qui ont des préoccupations nombreuses, importantes, et qui, du coup, passent à côté de cet essentiel de vie qu'est la parole. Mais là, il faut faire attention de ne pas serrer l'humanité. J'aime pas trop ce texte d'explication de la parabole dans la Bible. Parce que, véritablement, à juger trop vite les autres, on tombe dans l'histoire de la paille et la poutre, vous savez. Hein, on voit facilement la poutre, la paille qui est dans le gars d'en face, mais la poutre qui est dans notre œil, on la voit pas très bien. Et pointer du doigt l'humanité, comme se fait ce texte-là, en disant, bah, il y a les enthousiastes, etc. Eh bien, on risque de pointer du doigt et d'exclure telle ou telle partie de l'humanité. Et ça, c'est pas le projet de Dieu. Alors, j'ai même à penser, peut-être à tort, que quelques graines dans la haie peuvent finir par pointer leur épi au-dessus des épines. Je l'ai vu, de mes propres yeux, dans des champs de seigle du côté de Merveille, c'est pas très loin d'ici, où j'ai vu des épis de seigle pointer au milieu des ronces et des mûres. Puis je pense que les oiseaux n'ont peut-être pas tout dévoré et que entre les pierres, il y a des coins où il y a un peu de terre qui peuvent produire un épi ici ou là. J'ai peut-être tort, mais la bonne nouvelle étant une bonne nouvelle et non pas une mauvaise nouvelle, j'irai plutôt dans ce sens. La grâce. Pas que la grâce dont nous avons vécu tout à l'heure, ni plus ni moins. La grâce est signe de l'amour de Dieu. C'est que chacun peut être touché. La générosité qui s'exprime là donne à tous la possibilité de réaliser que le salut est en eux, que le salut est véritablement universel. Nous ne sommes pas dans ce récit dans le cadre de la double prédestination chère à Calvin et à Théodore de Bèze, mais je n'en ai pas trop l'écorché avant cet après-midi, mais on est dans l'idée plutôt du salut universel tel que Moïse, Amiro ou Arminius l'ont développé au XVIe et XVIIe siècle. C'est ce don universel, en fait, qui fonde la fraternité entre les hommes. Parce que si en chacun d'entre nous, qui sommes la terre, il y a quelque chose de la parole de Dieu, c'est que dans le regard de chacun, il y a quelque chose du regard de Dieu. Mais plus encore, je pense que les hommes ne sont pas taillés d'une seule pièce, ils sont bien plus complexes que ça. Et l'ensemble des terrains des paraboles, c'est chacun d'entre nous. Nous avons tous dans nos vies des moments d'enthousiasme qui tombent assez vite. Nous avons tous dans nos vies des préoccupations qui étouffent la parole, et ainsi de suite. Mais nous avons tous, absolument tous, chaque être humain, un coin de bonne terre. Est-ce qu'on ne dit pas que même les terroristes, les pires des terroristes, ont une mère et qu'ils sont capables aussi d'amour? Au regard de Dieu, il n'y a pas d'être maudit ou perdu. Chaque homme est créature de Dieu. Chaque homme est une espérance de Dieu, comme le soutenait le pasteur Charles Wagner il y a à peu près un siècle. Et cette terre en nous, ensemencée par la parole, c'est ce qui fait des êtres nouveaux, des êtres appelés à la liberté et vivant de la grâce. C'est par ce coin de bonne terre qu'il y a en chacun et chacune d'entre nous que s'exprime la dignité de l'humain, sa part de créativité, de rêve, de poésie, de sensibilité et d'amour au final. C'est là que le ciel touche la terre comme la rosée se dépose au matin dans la prairie. C'est là que s'exprime la vie, notre vie en fait. Cette parole de Dieu en nous fait de nous des êtres libres par rapport aux contingences, aux fatalités, aux manipulations et aux théories prétendant réduire l'humain à une mécanique comme le prétendaient déjà dès le XVIIIe siècle des philosophes comme Lamettri, même Condorcet. Et comme le font aujourd'hui les penseurs du transhumanisme, qui ont quand même une tendance fâcheuse à réifier, à chosifier l'être humain. L'être humain n'est pas une mécanique qu'on peut augmenter, comme on le dit trop souvent aujourd'hui, qu'on peut créer et recréer par quelques greffes, médicaments, connexions, modifications génétiques. Nous ne sommes pas des mécanos ou des légos ou des rébos ou des cyborgs, mais nous sommes des êtres qui puisent leur dignité dans le je ne sais quoi qui fait la grandeur de chacun, dans la rencontre avec l'ineffable qui emplit nos silences, qui calme nos anxiétés, qui perce le bruit qui nous environne. Et je pense, en écrivant ces lignes, au pasteur Pierre Ducrot, qui, lors d'une séance de catéchisme, nous disait ceci. Il connaissait une paroissienne qui travaillait toute la journée, qui, chez elle, en rentrant, s'occupait de sa famille et qui priait dans le métro. Je ne sais pas si vous avez essayé de prier dans le métro, mais je trouve ça extraordinaire. Et je me dis que la bonne terre, finalement, elle n'a pas de lieu privilégié. Elle n'a pas un temps ou un moment réservé pour être ainsi fécondée. Mais elle peut toucher n'importe qui, même dans un tunnel de métro surchargé. Elle peut toucher n'importe qui et aller au cœur d'une personne pour la faire vivre, comme c'était le cas pour cette femme. Dans la bonne terre se trouve l'émerveillement. Dès que la parole la touche et la conscience qui permet de prendre, de s'évaluer, de se poser face à face avec Dieu, il y a dans la bonne terre et sa fécondation la contemplation et la transcendance qui s'expriment à ce moment-là. C'est un temps suspendu et c'est un moment d'éternité qui nous est offert. Et si l'homme est l'espérance de Dieu, parce que la parole semée est là en nous, alors nous avons notre espérance en Dieu. L'homme est un être d'espérance, comme le soutenait Jürgen Moltmann dans un de ses livres sur l'homme. La parole est ainsi le signe d'un face-à-face avec Dieu. Le fait que nous puissions ainsi tutoyer Dieu, parce qu'il est venu vers nous avec ce cadeau extraordinaire, mais tutoyer Dieu, est-ce que vous réalisez ce que ça représente? Un vieux copain que vous retrouvez comme ça, on va le tutoyer, vraiment comme si c'était quelqu'un qu'on voit régulièrement. Et moi, je trouve ça assez génial, parce que cette parole qui vient vers nous, ce semeur qui vient vers nous, vient pour un moment de proximité et véritablement un moment d'intimité. Alors nous pouvons effectivement avoir ce tutoiement qui peut sembler parfois un peu léger, dire, face à Dieu. Mais essayez d'imaginer Dieu juste là en face de vous, est-ce que vous le tutoierez? Alors l'Ancienne Alliance avait déjà vu la chose. L'Ancienne Alliance, avec ce texte du Deutéronome, il y en a bien d'autres évidemment, avait bien vu la chose quand elle dit que la parole est au cœur. Elle n'est pas au ciel, loin ou au-delà des mers ou ailleurs. Elle est vraiment au cœur des hommes, véritablement, pour qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent vivre en plénitude. Cette parole, c'est la Torah, évidemment. Mais je trouve que c'est assez extraordinaire que dès la première alliance, il y ait cette intuition qu'on retrouve dans la deuxième, évidemment, qui constitue l'ensemble de la bonne nouvelle, hein, et qui est là pour nous dire qu'il y a une puissance, une richesse formidable qui est en nous, qui nous est offerte. Et c'est pourquoi Jésus nous dit qu'un épi va emporter 30, 60, 80. Et ça, c'est une aberration totale. 30 grains sur un épi dans l'Antiquité, c'est tout à fait exceptionnel. Alors une centaine de grains sur un épi, on est dans vraiment quelqu'un qui dit n'importe quoi. Et alors, en fait, nous sommes dans la parabole, nous sommes dans l'image, mais on retrouve cette exagération, cette manière de voir le royaume, cette abondance du royaume dans bien d'autres textes. Prenez par exemple le grain de moutarde qui est semé et puis hop, il pousse et tous les oiseaux du ciel viennent y faire leur nid. Ou alors ces noces de Cana où il manque du vin et pomme, il y a 300 litres qui arrivent de vin de qualité à la fin de la fête. Je veux dire, on est là dans l'absurde, on est là dans ce qui nous dépasse infiniment, mais on est là dans quelque chose qui nous dit qu'il se passe un événement extraordinaire, c'est que le royaume est bel et bien présent. Cette richesse est en nous, alors qu'en faire? Il ne faut pas s'endormir comme le riche insensé, de dire, voilà, ça y est, on est pépère, on fait partie de ceux qui sont sauvés. Et malheureusement, ça se passe pas comme ça. Non, bien sûr, il faut travailler, il faut d'abord patienter pour attendre la récolte quand il faut. C'est pas toujours si évident que ça. On est trop impatient parfois. Il faut savoir protéger la moisson, faire la moisson, protéger la récolte, réensemencer après, évidemment, pour que l'aventure continue. Il faut partager aussi, il faut être ouvert au monde, parce qu'on a cette richesse incroyable qu'on ne peut pas garder tant elle est formidable. Notre liberté, notre conscience sont là, et nos rêves qui sont là pour nous engager à créer un monde nouveau, un monde de fraternité vécue, d'engagement auprès des exclus, bien sûr, qui sont près de chez nous, mais aussi du monde. Et nous avons à dire non, à nous engager aussi, à dire non à l'injustice, à l'uniformité ennuyeuse, abêtissante de la société de consommation. Dire non aux promesses non tenues des États et des puissants de ce monde. Moi, ça fait 60 ans que j'entends les hommes politiques qui nous promettent les mêmes trucs. S'ils font toujours la même chose dans les mêmes discours, c'est que ça ne s'est pas passé. Alors, créer, recréer. Recréer la création, la protéger aussi et la rebâtir. C'est un projet grandiose que nous avons devant nous. C'est pour ça que l'Église protestante unie de France se penche là-dessus cette année. Je veux dire, il faut le faire, il faut le faire vite, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Que ces appels, que ces engagements qui sont là, qui sont la conséquence de cette richesse que le semeur a semée en nous, ça veut dire qu'au final, eh bien, nous sommes appelés à être prophètes. C'est-à-dire, au sens propre du terme, porteurs de la parole. Telle est l'ouverture et l'avenir à bâtir. Telle est la finale de cette parabole. Vous êtes prophètes. La parabole s'ouvre là. Il va falloir aller dans le monde. La justice, la grâce et l'espérance sont là. L'espérance en Dieu pour le monde. Il faut l'annoncer. Il faut le vivre. C'est notre mission, notre grandeur. Dieu vient semer en nous la parole. Nous sommes enfants de cette parole. Nous sommes les enfants de la liberté. Et nous sommes les enfants de Dieu. Amen.
Pendant que nous méditons quelques instants avec cette musique sur le texte de cette prédication et cette prédication, et que nous attendons l'annonce de la collecte de l'offrande qui va circuler pendant une petite 10 minutes au milieu des fidèles rassemblés sous les châtaigniers, j'ai le plaisir d'être avec Emmanuelle Sebolt, présidente et pasteur du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Emmanuelle Sebolt, bonjour.
Bonjour.
Je vous rappelle tous que nous sommes sur France Culture en direct de Mialet dans le Gard pour ce culte protestant en plein air de l'Assemblée du désert et nous venons d'entendre la prédication de Vincent Hubach, pasteur de l'Église protestante unie de Robinson dans les Hauts-de-Seine. Pasteur Emmanuelle Sebolt, nous sommes sur un créneau peu habituel sur France Culture, 11h midi, et nous venons d'entendre un culte réformé classique. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques clés rapides de compréhension de cette liturgie réformée ?
Alors, la liturgie, c'est le mot qu'on utilise pour parler du déroulement du culte, de l'office donc, et ce culte est un aller-retour entre la parole de Dieu et la parole de l'être humain. Qui répond, qui entend, qui dit sa peine, qui reçoit son pardon. Voilà, donc tout le déroulement du culte est un aller-retour entre la parole de Dieu et la réponse de l'être humain.
On pourrait appeler ça un dialogue.
C'est un dialogue, oui, c'est le juste mot.
Quelle est la place de la prédication, donc de ce grand commentaire qu'on a entendu après la lecture des textes bibliques, qu'on appelle dans la tradition catholique une homélie et que les protestants appellent la prédication. Comment ça compte chez les protestants ce moment ?
Alors, c'est la place centrale, puisque ce qui est le plus important, c'est la parole que l'on va recevoir de Dieu. Alors bon, c'est le pasteur ou c'est un prédicateur qui vient la donner à partir d'un texte biblique. Alors, le texte biblique est lu et ensuite il est, pas seulement commenté, mais on essaye de donner l'actualité, la parole pour aujourd'hui, que ce vieux texte, qui a peut-être 2000 ans ou plus, donc voilà, l'actualité que ce texte peut avoir pour nous aujourd'hui dans nos vies. Donc c'est vraiment le moment central du culte, la prédication. Ensuite, on va avoir la Sainte Cène, l'Eucharistie pour les catholiques, où l'on reçoit le pain et le vin, et où Dieu nous parle autrement, il nous parle par des signes et par des gestes.
Et parlons un petit peu des chants. Peut-être que si on ne connaît pas les cultes protestants et réformés, on a pu noter que les chants avaient une place importante. Pourquoi, dans la tradition protestante, les chants ont une telle place ? D'ailleurs, commence le psaume 66, vous tous les peuples de la terre, qu'on entendra un petit peu en fond. Pourquoi cette place si importante, pasteur Emmanuel Sebolt ?
En fait, c'est la réponse de l'Assemblée. Pour que les membres de l'Assemblée puissent parler d'une seule voix, je dirais, c'est difficile de parler tous ensemble. Et donc, la manière que l'on a eue de faire parler l'Assemblée ensemble, c'est de les faire chanter. Et donc, à chaque parole de Dieu qui est dite, que ce soit un appel à la confiance, que ce soit le rappel de la loi, que ce soit l'annonce du pardon, eh bien, l'Assemblée répond, et elle répond par un chant.
Et c'est important que ce soit vraiment l'Assemblée, que tout le monde soit engagé. Pourquoi, en fait, c'est important ?
Mais, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le culte ? Il y a à la fois un dialogue personnel de moi qui suis présente là dans l'Assemblée, de chacun, donc. Chacun est invité au cours du culte à être comme s'il était seul, face à Dieu, et en même temps, il est avec tous les autres. La prière, par exemple, la prière des chrétiens, le Notre Père, etc., eh bien, cette prière commence par un autre. C'est moi, je, mais je peux pas dire mon Père sans dire mon Père, Dieu mon Père, qui est le Père aussi des autres, notre Père.
Donc, parmi les chants qui sont chantés, on voit bien, là, on a mis particulièrement l'accent au niveau de l'Assemblée du désert pour un culte un peu traditionnel sur ce qu'on appelle les psaumes. Les psaumes ont une place particulière, laquelle ?
Alors, au moment de la Réforme, Luther et après Louis Calvin ont rappelé que le chrétien doit chanter les textes de la Bible et pas d'autres. Alors, on a changé depuis, mais pendant très longtemps, les protestants n'ont chanté que les textes bibliques. Et donc, les textes à chanter, par absolument de manière prioritaire, c'était les psaumes. Donc, il y a eu tout un travail de traduction de ces psaumes qui sont écrits en hébreu, et donc les intellectuels ont appris l'hébreu. Ils ont traduit, d'abord Clément Marot a traduit 49 psaumes, et puis Théodore de Bèze a traduit les 101 qui manquaient pour faire 150.
Alors, je saisis la perche, je saisis cette perche, pasteur Emmanuel Sebolt. Cette année, l'Assemblée du désert célèbre joyeusement donc le 500e anniversaire de Théodore de Bèze. Donc, qui a écrit ces psaumes dont vous venez de parler.
Qui a traduit.
Qui a adapté ces psaumes de la Bible.
En français.
En français, en vers, en strophes. En deux mots, qui était Théodore de Bèze ?
Alors, c'était d'abord un intellectuel français qui était très versé dans les lettres. Et puis, quand il s'est converti à la Réforme, il est parti en Suisse, comme beaucoup d'intellectuels français. Et là, le poète humaniste qu'il était quand il était catholique, entre guillemets, eh bien, il a mis son art de la poésie au service du texte biblique. Et donc, il a pris le relais de Clément Marot, qui n'avait pas pu traduire de l'hébreu au français l'ensemble, et donc, il a traduit le reste des psaumes. Il est ensuite aussi devenu, il était professeur de latin, etc. Il est devenu pasteur, et puis il a été un bras droit, on va dire, de Calvin.
Et aujourd'hui, donc, on l'entend dans cette célébration, on chante toujours les psaumes de la Réforme. Comment ça se vit dans l'actualité des églises protestantes réformées aujourd'hui ? C'est quelque chose qui se perd ? C'est quelque chose qui reste vivant ?
Alors, le chant des psaumes, c'est quelque chose qui est peut-être un peu difficile à maintenir parce que ce sont des mélodies qui datent de la Réforme. Et donc dans des tonalités qui ne sont maintenant plus tout à fait habituelles pour nos oreilles, dans des modes anciens. Les paroles ont été de nombreuses fois retravaillées, remises à chaque fois dans un français actuel. Et un magnifique travail a été fait dans les années 1970 à partir des paroles de Théodore Debèze et puis de ceux qui ont succédé pour faire la version que nous chantons aujourd'hui dans un français d'aujourd'hui. Mais reste que les mélodies sont anciennes et donc aujourd'hui il y a aussi un travail et aussi des compositeurs qui composent des nouvelles mélodies pour reprendre ces anciennes paroles qui sont toujours actuelles pour nous.
Et donc on réactualise régulièrement les psaumes de la Réforme, on conserve le patrimoine pour le rendre vivant aujourd'hui. Il y a d'autres types de chants qui se développent, des nouveaux cantiques, des nouveaux chants.
Oui, alors si les protestants français sont restés longtemps, très longtemps, uniquement avec les psaumes, il y a eu donc à partir du 19e siècle un mouvement de chanter, voilà, l'impulsion pour chanter autre chose que les paroles strictement bibliques, et donc des écritures successives, et donc se sont accumulés un grand nombre de répertoires particuliers, on a eu les chants du réveil, on a des chants contemporains aujourd'hui, mais on manque de musiciens et on manque de poètes pour réussir à faire ce travail extraordinaire qui a été fait à la Réforme. Aujourd'hui, on manque de musiciens et de poètes.
Donc c'est presque un appel que vous lancez
sur les ondes.
Et dans les églises, dans les paroisses protestantes, je pense particulièrement à votre église, l'église protestante Unie de France que vous connaissez bien, c'est facile d'introduire de la nouveauté au niveau des chants?
Alors, les membres de l'église sont comme tout le monde dans la société. On aime ce que l'on connaît. Et donc, pour découvrir quelque chose de nouveau, c'est compliqué. Il faut l'entendre plusieurs fois pour que tout à coup, on se dise « Ah oui, ça y est, on reconnaît, je connais et j'apprécie ». Donc, effectivement, apprendre de nouveaux chants, c'est vraiment une gageure pour nos assemblées.
Et comment, dans un culte, et ce sera ma dernière question sur la partie musicale, mêler avec harmonie, finalement, les générations, les attentes de chacun, des chants plus traditionnels et parfois d'autres attentes sur des chants plus modernes avec d'autres types de rythmes ou d'instruments. Comment faut-il et comment mêler ces différents genres?
Alors, c'est vraiment une question qui est très personnelle. Certaines personnes n'aiment pas mélanger les genres. Je ne suis pas de celle-là et j'aime quand un culte mélange. Quand un culte a un psaume de la Réforme, un chant du réveil, un gospel et des chants contemporains. Moi, j'aime cela. J'aime qu'on puisse accompagner un chant avec l'orgue et puis le chant suivant avec un groupe de guitare. J'apprécie ces mélanges. Voilà, tout le monde n'apprécie pas de passer les 5 siècles de musique, de zapper, je dirais, d'une harmonisation à une autre, d'un mode à un autre. Voilà, donc c'est. Mais moi j'aime ça, et beaucoup de paroisses s'ouvrent à ça aussi aujourd'hui.
Alors en France, il y a une constellation de courants protestants, réformés, luthériens, évangéliques, pentecôtistes, adventistes, que la Fédération protestante de France représente. Comment cette diversité protestante peut-elle être inspirante pour chacune des églises?
Elle peut être inspirante si chacune des églises connaît les autres et s'invite et se visite et œuvre ensemble. Alors il y a des lieux où l'on œuvre ensemble, souvent c'est dans l'entraide. Mais aujourd'hui, devant les défis qui sont devant nous au niveau de la société, ça paraît, tellement superficiel de se diviser. Les défis qui sont devant nous, que ce soit au niveau scientifique, écologique, politique, tout simplement, sont, à mon avis, un aiguillon pour que nous travaillions main dans la main à avoir une parole dans la société, une parole d'espérance. Parce que nous sommes dans une société et dans un monde qui cherche l'espérance.
C'est facile, c'est quelque chose d'évident d'aller rencontrer l'église d'à côté quand on est une église.
Oh, c'est jamais facile de rencontrer quelqu'un qui n'est pas comme nous. Certains ont un tempérament, un caractère qui les pousse à aller à la rencontre. Et donc, ça, c'est extraordinaire quand l'église d'à côté est ouverte et voilà, spontanément est prête à rencontrer. Mais chaque rencontre représente un risque et représente une chance. Et donc, il faut passer à travers le risque pour cueillir la chance.
Théodore de Bèze a été aussi un grand constructeur des églises réformées et notamment a travaillé pour l'unité du protestantisme. Il y avait déjà différents courants, différentes pensées dans le protestantisme du XVIe siècle. Il a vraiment travaillé pour l'unité du protestantisme, avec ses idées certes, mais il y a travaillé. Est-ce qu'on a encore des Théodore de Bèze aujourd'hui?
J'espère que tous les responsables d'église suivent et regardent ce modèle-là pour encourager le travail ensemble entre églises. J'espère vraiment que chaque responsable d'église a ça dans sa ligne de mire.
Vous dites un peu qu'il en va de la mission,
oui,
de chaque responsable d'être ouvert à cette unité entre protestants.
Oui, mais oui, non seulement ça, mais c'est une injonction du Christ lui-même qu'il soit un, comme lui est un avec son Père. Tout chrétien est normalement poussé, encouragé, ouvert à cette unité.
Alors le risque de la rencontre, c'est un petit peu votre appel, j'entends, oui, ce matin, entre protestants, mais peut-être aussi entre chrétiens, plus largement.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
C'est différent, la rencontre entre chrétiens. Je ne vais pas vous demander un état des lieux, ce serait peut-être un peu long et fastidieux, mais comment ça se passe pour ceux qui sont un peu extérieurs ou qui sont peut-être chez eux, tout seuls, un peu éloignés des églises? On en est où aujourd'hui de ce dialogue et de cette vie entre chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants?
En fait, il y a eu en 50 ans des progrès considérables, des avancées que l'on n'aurait jamais imaginées il y a 50 ans. Donc, c'est beaucoup sujet de réjouissance et aussi de déception, parce que quand on a avancé très vite vers plus de compréhension, vers un travail ensemble, on aimerait que ça se poursuive aussi rapidement. Et on arrive à un point où il y a les dernières difficultés, je dirais, se dressent devant nous et peut-être que c'est les plus difficiles à franchir.
Est-ce que vous comprenez, pasteur Emmanuel Sebolt, à quel point ça peut être déstabilisant, ça peut être un contre-témoignage pour les personnes non-croyantes et pour les chrétiens eux-mêmes, de voir que l'unité entre chrétiens, les différentes églises, voire même parfois les coups bas ou les attaques, soit compliquée à vivre et à entendre?
Bien sûr, bien sûr. C'est très déstabilisant pour les chrétiens eux-mêmes. Mais je crois qu'il ne faut jamais oublier ce que c'est que l'être humain. Et les églises ne sont, sont d'abord rassemblement d'hommes et de femmes. Et quand les oreilles se ferment à l'Esprit Saint, eh bien, ça reste des humains, comme les autres ordinaires.
Est-ce que vous avez une expérience à partager intéressante sur ces rencontres, sur cette unité entre protestants avec notre église?
Alors, on a vécu fin octobre, début novembre à Lyon, une chose extraordinaire qui était le forum chrétien francophone. Ça s'est vécu pour la première fois. Et en fait, se sont rencontrés des chrétiens de toute église. Orthodoxes, catholiques, protestantes, évangéliques. Et pendant les 4 jours de cette rencontre, l'objectif était de se dire quelle était sa propre expérience de foi et de la partager avec un autre sans savoir de quelle église il était. Et cette rencontre a été extraordinaire. On était, je crois, 150 ou 200 chrétiens. Et voilà qu'on a découvert l'autre sans savoir d'abord de quelle église il appartenait. Et ces rencontres ont été extraordinaires.
Alors nous sommes toujours en direct de Mialet, dans le Gard. La collecte est en train de se terminer tout doucement et le pasteur a rejoint la chaire où il va poursuivre la suite du culte avec différentes prières. Le culte se poursuit donc avec le pasteur Vincent Hubach de l'église protestante unie de Robinson dans les Hauts-de-Seine. Merci beaucoup Emmanuel Sebolt d'avoir été avec nous pour ce temps d'entretien et d'interview. Je vous laisse vous replonger dans ce culte avec le chant qui est en train de se terminer.
Merci.
Seigneur, bénis cette offrande, qu'elle soit mise au service du partage de ta parole, comme au service de la justice et de l'espérance. Amen. Au moment de partager la confession de foi, en suivant du cœur les paroles de cette confession de foi, je voudrais que chacun se sente libre de ses interprétations, de ses approches ou de ses appartenances, en confessant ce symbole des apôtres. Et je vous invite à vous lever pour cela. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et puisque vous êtes debout, vous chanterez comme il se doit le cantique 471, les strophes 1 à 3, « À toi la gloire au ressuscité ».
Oh,
asseoir. Nous prions Dieu. Père, nous sommes nombreux ici réunis à te remettre notre prière. Et avant toute chose, nous voudrions te remercier pour tout ce que tu nous as apporté au cours de ce culte. Des choses qui nous semblent évidentes, des choses qui sont précises, mais aussi de ces moments indéfinissables, de ces paroles qui nous toucheront dans quelques jours, de cette richesse qui est déposée en nous. Père, nous voudrions te prier d'abord pour ceux qui sont seuls aujourd'hui, qui auraient bien voulu venir, qui n'ont pas pu venir. Nous avons des noms, des visages en mémoire.
Alors que le pasteur termine sa prière, prière pour les autres, prière d'intercession, c'est la fin de la retransmission de ce culte de l'Assemblée du Désert, en direct de Mialet, dans le Gard. Un culte présidé par le pasteur Vincent Hubach, de l'Église protestante unie de Robinson, dans les Hauts-de-Seine. Merci aux équipes de Radio France, Laurent Lucas, François Ravalon et Benoît Bachelier. Une émission animée par Benjamin Bories et produite par la Fédération protestante de France avec Mathilde Moutou, assistante de production. Merci à Denis Carbonnier et aux équipes qui ont préparé ce culte. Et j'en profite pour signaler que le Musée du Désert s'est agrandi cette année et qu'il propose deux nouvelles salles sur la réforme du XVIe siècle, les guerres de religion, l'édit de Nantes et la première période du désert protestant. Vous pouvez écrire au service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Pour le podcast et le texte de l'émission, rendez-vous sur franceculture.fr et protestant.org. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le service protestant à 8h30 avec une méditation du pasteur Brice Démier, responsable de l'aumônerie des prisons. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Bonne journée à vous sur France Culture.